Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, notre semaine s'achève sur un débat autour d'un sujet d'actualité économique. Aujourd'hui, c'est la dépendance mondiale au charbon, premier émetteur de CO2, que nous allons examiner. Si le charbon a constitué au 19e siècle ce précieux combustible, indispensable élément de la vie industrielle, comme l'écrit Jules Verne dans Les Indes Noires, la nécessité d'abandonner une énergie responsable de 45% des rejets de carbone dans l'atmosphère apparaît plus urgente que jamais. Et pourtant, la consommation de charbon a recommencé à augmenter en 2017, selon l'Agence internationale de l'énergie, et cela en raison de la hausse de la demande en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Alors comment comprendre cette hausse de la consommation mondiale en contradiction avec les engagements pris lors de la COP21? Quels sont les pays qui tentent de s'affranchir de cette dépendance? Et comment accélérer aujourd'hui la sortie du charbon? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui avec nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Julien Damon nous plonge dans le traité sur la famille de Gary Becker. Trois invités avec nous dans le studio 158 de la Maison de la Radio. Bonjour Oliver Sartor.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales de Sciences Po et vous avez coordonné une enquête internationale sur la sortie du charbon. À vos côtés, Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et spécialiste des questions liées aux matières premières. Et enfin, Lucie Pinson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole des Amis de la Terre et coordinatrice européenne de la campagne Unfriend Coal qui demande aux assureurs de mettre un terme à leur soutien au charbon. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un trésor. S'il n'y avait pas le charbon, il n'y aurait pas de travail. Si nous fermions les mines, tout s'effondrerait autour, les magasins et les entreprises qui les fournissent.
Nous avons énormément de chance d'avoir autant de charbon et de si bonne qualité. Nous contribuons ainsi au développement du pays. Si on l'appelle l'or noir, c'est parce que c'est lui qui nous fournit cette précieuse électricité. C'est vraiment comme de l'or. Le charbon, c'est une bénédiction.
Cela fait 2 ans qu'on nous a demandé de passer du charbon à l'électricité. Dans le village voisin, ils l'ont fait. Ici, le changement est en cours. Mais l'électricité sera plus chère que le charbon.
Voilà, on a entendu d'abord un mineur polonais, puis le directeur d'une mine en Inde et enfin un villageois chinois. Alors que la consommation mondiale de charbon avait décliné en 2015 et 2016, elle est repartie à la hausse en 2017. Elle a augmenté d'environ 1%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse, Oliver Sartor ?
Oui, merci beaucoup. C'est largement dû au fait que, déjà il faut comprendre que la Chine c'est 50% de la consommation mondiale. Donc entre l'Inde qui est 10% et la Chine qui est 50%, on peut expliquer les tendances globales. Et globalement ce qui s'est passé en Chine c'est que il y avait une ralentissement de l'économie avant ces années-là, et après le gouvernement a relancé des politiques de relance économique dans les zones industrielles qui ont augmenté un petit peu la consommation du charbon.
Alors on va revenir sur la question spécifique de la Chine et de l'Inde, en effet, deux pays dans lesquels la consommation est effectivement extrêmement forte. Mais d'abord sur ce premier panorama mondial, ce qu'on peut dire c'est que le charbon représente aujourd'hui environ 40% de l'électricité produite dans le monde. Et ce chiffre est finalement relativement stable depuis 30 ans, Philippe Chalmin.
37% exactement. Tout simplement parce que certes, l'intensité charbonnière des vieux pays avancés diminue. Même celle des États-Unis, où le gaz naturel a pris le pas sur le charbon. Et par contre, comme l'expliquait Oliver, il est clair que la croissance économique chinoise est maintenant indienne, avec des niveaux de dépendance au charbon qui sont, dans le cas de la Chine, maintenant un peu inférieurs à 60%. Mais enfin, ça reste considérable. C'est ça qui explique la montée en puissance de la demande charbonnière mondiale. Si je rajoute un des Chines, je dois être à 60% à peu près de la consommation mondiale. Rajoutons à cela quand même des pays qu'il faut pas oublier, comme le Japon, comme la Corée du Sud, et puis, quand même, le quatrième consommateur mondial de charbon, qui s'appelle l'Europe. Donc, il n'y a pas que les autres. Il y a nous aussi. Alors, pas nous les Français, mais les autres en Europe.
On va y revenir évidemment sur l'Allemagne. Mais d'abord, un mot, Lucie Pinson, sur cette hausse de la consommation mondiale de charbon.
Alors oui, alors par contre, pour revenir un petit peu sur la Chine d'abord, qui en effet, la Chine fait les tendances au niveau international. La Chine a augmenté et continue d'avoir des prévisions de développement de sa capacité en termes de charbon. Ce pipeline, ce qu'on appelle le pipeline de nouvelles capacités charbon, diminue. Cependant, elle est toujours là, et on prévoit que la tendance s'inversera qu'en 2022. Donc à partir de 2022, il faudra attendre 2022 pour avoir un retrait des capacités existantes supérieur à l'entrée en opération de nouvelles capacités. Pour la Chine, il faut rappeler cependant que les centrales aujourd'hui sont surcapacitées en Chine. En 2015, elles tournaient à moitié de leur capacité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement chinois a fixé un objectif palier pour 2020 et mis des restrictions dans le développement de nouvelles capacités charbon. Malheureusement, cette décision prise au niveau des nationales n'a pas été mise en place au niveau des provinces.
Olivier Sartin, c'est important cette question d'une consommation de charbon qui augmenterait à nouveau en Chine, mais en même temps, la part du charbon dans le mix énergétique diminue en Chine au profit du pétrole et du gaz naturel, et la Chine qui est par ailleurs le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui en Chine de s'éloigner du charbon.
Oui, effectivement. Je pense qu'il y a une nuance ici qui est très importante, qui est que parfois on a des gouvernements dans tous les pays du monde, même en Chine, qui font les choses qui ne sont pas complètement cohérentes. Et après, il faut interpréter ce que ça veut dire. En Chine, il y a effectivement une vraie volonté, je pense, du président Xi Jinping jusqu'en bas du gouvernement, de réduire la consommation de charbon dans le pays, notamment pour les raisons de qualité de l'air, qui est devenu un vrai sujet politique en Inde, mais aussi parce que le développement durable devient un gros sujet en Chine en général, donc y compris les enjeux climatiques, qualité de l'eau, qualité du sol, etc. Et le charbon impacte tous ces choses-là. C'est pour ça que la Chine fait aussi un grand nombre de politiques pour commencer. Déjà, ils ont fixé un plafond en fait sur leur consommation mondiale. Donc,
ce que n'a pas fait l'Inde, par exemple.
Ce qui n'a pas encore fait l'Inde. Mais commence à développer des différentes politiques dans le secteur du chaleur, dans le secteur électrique, pour développer des alternatives. Donc, et c'est pas que gaz et pétrole, c'est aussi énergie renouvelable, électrification dans le chaleur, et un peu du nucléaire aussi.
Et en même temps, la Chine construit de nouvelles centrales à charbon dans toute l'Asie du Sud-Est, sachant qu'en Europe, par exemple, les centrales ont une durée de vie de 40 ans. On voit que ces nouvelles centrales qui sont en train d'être construites, c'est un immense défi pour la transition énergétique, Philippe Chalmin.
Oui, alors je voudrais d'ailleurs, sur la Chine, rappeler que certes, la capacité de production de charbon en Chine a tendance à diminuer avec la fermeture de mines particulièrement peu rentables, etc. Le problème, c'est que de ce fait, la Chine a augmenté ses importations de charbon, et elle l'a encore fait cette année. La Chine est le premier importateur mondial de charbon. Grands équilibres. Il se produit chaque année un peu moins de 8 milliards de tonnes de charbon. Il y a un peu plus d'un milliard de tonnes qui est importé. Et l'année dernière, la Chine, en 2018, a importé 215 millions de tonnes de charbon. Donc, en augmentation de 7%, le deuxième importateur étant l'Inde. Donc, il faut bien se rendre compte que ceci a joué pour rentabiliser, parce que ça fait augmenter les prix mondiaux du charbon, et ça rentabilise les mines un petit peu partout. Malgré tout, et malgré cette augmentation du prix mondial, le charbon, ça reste malheureusement la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité. Tant que je n'ai pas de taxe carbone, tant que je n'ai pas de taxe CO2, si je regarde simplement, je ramène en équivalent capacité de production d'énergie le charbon, le gaz naturel, même aux États-Unis où il ne vaut pas cher, bien entendu le pétrole, etc. Malheureusement, c'est le charbon qui est le moins cher et qui est en plus peut-être pour nombre de pays qui ont des soucis d'alimentation électrique, c'est ce qui est actuellement le plus facile à monter, une centrale charbon.
Lucie Pinson, le charbon, c'est l'énergie la moins chère.
Alors ça va dépendre des pays. Si on prend l'Inde, qui est quand même le pays donc, qui, après la Chine, est le plus gros en termes de prévision de développement de nouvelles capacités charbon, on a eu une diminution fulgurante du prix des renouvelables sur les deux dernières années, avec une diminution de plus de 50% des coûts du solaire et de l'éolien. Et aujourd'hui, construire de nouvelles capacités éoliennes ou solaires, c'est 20% moins cher que d'opérer les centrales à charbon existantes en Inde. Donc ces pays-là, certes, ont un gros poids en matière de charbon. Cependant, ils ont également des opportunités très importantes à exploiter, à la fois pour le climat, mais aussi en termes de bénéfices sur la santé, en raison des impacts de la pollution due au charbon sur la santé des populations, en exploitant le bas prix et le potentiel fulgurant de développement des renouvelables.
Alors, je me permets de vous interrompre. Je ne suis pas du tout votre raisonnement. Si vous prenez un pays du tiers-monde dont la capitale a des problèmes d'alimentation électrique, le renouvelable, à l'heure actuelle, ne permet pas de satisfaire les besoins électriques d'une ville de 1 million d'habitants, comme on en a assez souvent en Afrique. À ce moment-là, s'il n'y a pas si je regarde simplement le prix d'importation du charbon par rapport au prix d'importation du gaz, par rapport au prix d'importation du fioul, qui serait probablement le pire, c'est malheureusement les centrales charbon qui sont les plus rentables, si, bien entendu, tant qu'on n'est pas capable de donner au niveau mondial un prix à la tonne de CO2.
Oliver Sartor et Lucie Pinson.
Oui, non, je suis pas complètement tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est pas une question d'approvisionner une ville comme ça. La question, c'est de petit à petit de changer le mix. Donc, on augmente le part des énergies renouvelables et de plus en plus, en fait, on est capable techniquement de stocker l'énergie, de produire les énergies renouvelables de façon plus efficace. Et donc, petit à petit, on arrive à 100% dans le temps.
Parce que ce qui est vrai, c'est que la demande en électricité en Inde, elle est considérable. On se demande si les énergies renouvelables vont pouvoir répondre à cette demande.
Exactement. Donc, en fait, ça dépend beaucoup déjà de quel pays on parle. En fait, de quelle ville on parle et quel village, etc. Après, il y a quand même une potentielle énorme qui commence à se développer avec les énergies renouvelables. Mon collègue a mentionné l'Inde.
Lucie
Pinson. Mais dans beaucoup de pays, c'est effectivement le cas que, s'il y a des bonnes ressources de soleil ou de vent, et si le coût de capital n'est pas excessivement cher, ça peut être soit à prix égal, soit moins cher de faire avec ces technologies. Et donc, ça change tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les grandes entreprises, en fait, ils voient ça arriver et ils changent leur stratégie. Glencore, par exemple, qui est le plus grand exportateur du charbon mondial, vient d'annoncer qu'ils vont mettre un plafond sur les exportations du charbon et ils vont commencer à diversifier leur portefeuille pour investir dans la transition énergétique et la transition mobilité.
Ça, c'est du discours.
Excuse-moi.
C'est du discours, ça.
Moi, je ne suis pas d'accord. Ça suit déjà Rio Tinto, BHP et un certain nombre d'autres dans le secteur du charbon qui commencent à changer leur stratégie.
Mais est-ce que c'est pour des questions économiques ou est-ce que c'est pour des questions d'image, justement, que des groupes comme Glencore...
Je pense que c'est les deux.
Oui. Ouais. Lucie Pinson.
Je suis tout à fait d'accord, c'est complètement pour les deux. Et Glencore, en effet, comme Rio Tinto ou les grands majors, on pourrait leur reprocher qu'elles communiquent fortement sur le charbon et ce qui leur permet de faire oublier leur rôle dans le développement des autres énergies fossiles et notamment du gaz, qui là pose un problème, non pas en raison de ses émissions de carbone, mais de méthane.
Sans même parler du cobalt en RDC.
Voilà, de toute façon, Glencore, il y aurait mille raisons de l'exclure de toutes les politiques de soutien économique en raison de ses violations de droits de l'homme, au-delà de son impact environnemental. Cependant, pour revenir, je suis d'accord avec ce que disait Olivier, c'est que on parle de transition, on va pas passer du charbon aux énergies renouvelables en un claquement de doigts. Par contre, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, et les chiffres notamment de prix, c'est plus intéressant aujourd'hui d'investir dans du renouvelable que d'investir dans le charbon. Or, malheureusement, on voit aujourd'hui que les politiques d'aide économique et notamment les soutiens publics au développement du secteur énergétique vont toujours malheureusement beaucoup trop aux énergies fossiles et notamment au charbon. Et donc, ces politiques là peuvent aujourd'hui faire toute la différence dans le développement ou non des 1000 projets de ce nouvelle centrale à charbon qu'on a aujourd'hui sur la table.
Olivier Serta.
Juste une remarque très bien. On a commencé en citant l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui nous a donné ce chiffre sur l'augmentation l'année dernière de consommation du charbon. Ils ont aussi donné quelques autres informations qui étaient très intéressantes, notamment, en fait, dans quoi le monde est en train d'investir pour les nouvelles capacités électriques partout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on investit aujourd'hui 4 fois le montant dans les énergies renouvelables en termes de capacité. Qu'on investisse dans le charbon. Ce qui montre qu'en fait, économiquement, c'est déjà viable, en fait, ces technologies.
Philippe Chalmin, sur la décision de Glencore et d'autres entreprises
de réduire leur activité. Glencore, alors il faut savoir que Glencore, c'est un animal particulier, c'est à la fois une entreprise de négoce internationale, c'est aussi un mineur, et c'est effectivement le premier acteur du charbon en Australie, et un exportateur majeur.
Non, c'est le troisième en Australie. Il y avait Rio Tinto et BHP qui ont déjà sorti du charbon.
Rio Tinto et BHP sont beaucoup moins importants dans le charbon que ne l'est Glencore. Rio Tinto et BHP se sont dégagés. Je vous rappelle que c'est pas mieux. Ouais. Ils sont dans le minerai de fer. Et pour produire de l'acier avec du minerai de fer, il faut du charbon. Cette fois-ci, du charbon à coque. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a 2 types de charbon. Il y a le charbon vapeur que l'on utilise dans les centrales électriques et le charbon à coque qui, lui, est utilisé en sidérurgie et qui est un peu incontournable. Celui-là, on n'a pas, sauf à faire de la sidérurgie électrique à base de ferraille, mais autrement, ça, on ne sait pas le remplacer. Non, moi, ce que je pense, on est tous d'accord que l'objectif à la fin de ce siècle, c'est d'en avoir fini avec les énergies fossiles et surtout les énergies polluantes et d'être dans le temps heureux des énergies renouvelables. Maintenant, je crois que c'est de l'escroquerie intellectuelle et c'est même dangereux de faire croire aux gens que d'un claquement de doigts, des économies aussi complexes que les économies chinoises, indiennes et surtout demain africaines vont pouvoir passer directement aux énergies renouvelables. Et il me semble qu'il y a une énergie de transition qui commence d'ailleurs à beaucoup se développer dans la production d'électricité dans nombre de villes du tiers-monde, c'est le gaz naturel. Nous assistons aujourd'hui à une explosion des échanges de gaz naturel liquéfié et je crois que ça va dans le bon sens. Je rappelle que pour produire de l'électricité à partir de gaz, on émet 4 fois moins de CO2 que l'on émet à partir de charbon. Donc il y a un mieux et il faut penser en termes de transition et non pas de révolution radicale et de nous balancer votre gentil soleil, votre vent, sachant que de toute manière, vous aurez toujours besoin d'énergie de bouclage au cas où il n'y ait pas de soleil et où il n'y ait pas de vent.
On va laisser la parole à Lucie Pinson, Olivier Serta, sur cette question du gaz naturel, même si, encore une fois, ça n'est pas le centre de cette émission, mais un mot tout de même, Lucie Pinson.
Je vais revenir d'abord sur les objectifs qu'on doit se donner. Il y a eu un rapport qui est quand même sorti l'année dernière, un rapport du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré. Et on a vu par ce rapport qu'entre 1,5 degré d'échauffement et 2,5 degrés de réchauffement, il y a un monde de différence. Il y a la moitié de la population qui serait impactée par des conséquences sévères de réchauffement, qui serait pas impactée si on visait 1,5.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas le temps.
Donc, et ce 1,5. Et que nous, positionner comme des gentils idéalistes qui pensons qu'on va réussir à développer les renouvelables, c'est complètement en déconnexion totale avec la réalité. La réalité, c'est que si nous ne visons pas 1,5 degré, et l'industrie de l'assurance le reconnaît, c'est que de toute manière, on va rendre notre monde inassurable. On va détruire les moyens et l'économie. Donc la question pour ces pays comme l'Afrique, c'est pas peut-on se développer et avec des énergies fossiles qu'on va terminer qu'à la fin du siècle, puisqu'il faut bien arrêter d'ici 2050, c'est comment allons-nous faire pour permettre une économie possible dans des pays sur le continent africain. Concernant le gaz, la question est de aujourd'hui, assurer une transition du charbon tout au renouvelable, sans forcément justement passer par l'étape gazière dans des pays où, de toute manière, le réseau énergétique est à développer de A à Z. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on ne parle pas de l'Afrique du Sud, on parle de l'Afrique noire qui, de toute manière, n'a pas de réseau énergétique. Et là, l'enjeu va être justement de développer un réseau énergétique extrêmement décentralisé et adapté aux énergies renouvelables et non créer un réseau centralisé fondé sur des énergies fossiles telles qu'on l'a fait en Europe.
Olivier Serta.
Oui, donc moi aussi je trouve que cette question de objectif est très importante, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur l'accord de Paris il y a 3 ans maintenant, et dans cet accord, l'objectif c'est d'atteindre la neutralité d'émissions de gaz à effet de serre d'ici la deuxième moitié de la siècle. Donc ça veut dire, en fonction de cela qu'on regarde, entre 2055 et 2080. Ça veut dire que il faut qu'on pense radicalement, parce que ça c'est un gros défi. Et c'est, on ne peut pas échapper le problème climatique en disant que c'est pas réaliste. En fait, moi je crois que ce qui est réaliste, ça dépend beaucoup de quelle est la volonté politique qu'on souhaite mettre derrière. Mmh. Et en fait, quand on voit cette transition au charbon, ce qu'on voit c'est une volonté politique qui augmente de façon très très rapidement. Nous avons aujourd'hui 30 gouvernements qui ont déjà signé un annonce pour dire que ils vont sortir du charbon d'ici 2030.
Mais qui représente une petite part de la consommation mondiale
oui,
de charbon.
Oui, excuse-moi, mais je vais pas finir. Donc ça, c'était le début. Effectivement, c'était critique. Sauf que maintenant, ça a changé parce qu'il y a quelques semaines, l'Allemagne, qui est la cinquième plus grande économie du monde, et le cinquième consommateur du charbon du monde, qui est aussi d'ailleurs en train de sortir du nucléaire, a dit que nous, on croit tellement dans notre capacité à développer les énergies propres avec les énergies renouvelables, et de garder notre compétitivité industrielle tout en faisant cela, qu'on va sortir du charbon d'ici entre 2035 et 2038. Donc ça veut dire que c'est pas que une petite partie maintenant, ça prend de la vitesse et ça touche les gros pays consommateurs maintenant.
Justement sur cette décision allemande, Philippe Chalmin, on a pu entendre qu'il s'agissait là d'un vœu pieux.
Il faut quand même rappeler que l'Allemagne, sur ces dernières années, depuis Fukushima et l'annonce de la sortie de l'Allemagne du nucléaire, l'Allemagne a augmenté sa dépendance au charbon et même pire, sa dépendance à la lignite. La lignite étant, vous le savez, beaucoup plus polluante que le charbon. Donc, quelque part, je trouve cette décision allemande tout à fait intéressante. Aujourd'hui quand même, au moment où nous parlons, l'Allemagne tire un tiers de son électricité du charbon et de la lignite et un tiers des énergies renouvelables. Un coût pour l'Allemagne, le programme énergie renouvelable allemand, est à peu près l'équivalent de ce qu'a coûté pour la France le programme nucléaire, sachant que le programme nucléaire français nous fournit à peu près les 3/4 de notre énergie, là où en Allemagne, le renouvelable n'en fournit qu'un tiers. Donc, le choix allemand, très bien, l'Allemagne a les moyens de se l'offrir. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, à être jusqu'au boutiste, à condamner tout ce qui ne va pas dans le sens de l'écologiquement correct, c'est-à-dire le renouvelable, vous mettez un certain nombre de pays dans des situations d'impasse. Combien de pays avez-vous j'ai eu ce cas sur un pays de la côte ouest africaine, confronté à des ruptures d'électricité, ce qui posait nombre de problèmes, et qui, à un moment donné, a décidé de construire une centrale charbon. Et quand je leur disais, c'est totalement absurde, ils m'ont dit, c'est le rapport qualité-prix du kilowattheure produit le meilleur. Alors, je leur ai dit, mais allez donc faire la manche pour essayer de vous faire subventionner et être plus politiquement correct. Ce qui est clair, c'est que demain, le même choix pourrait se faire à partir de gaz naturel liquéfié, ce qui serait quand même un pas en avant.
Olivier Sartor.
Oui. Mais en fait, je comprends. Nous avons fait IDRI en fait un projet avec les équipes de recherche qui sont les experts en énergie en Chine, Inde, Afrique du Sud, Australie, Pologne, Allemagne, des gros pays consommateurs du charbon. Et en fait, les experts de ces pays, ils ont étudié effectivement qu'est-ce qui est faisable à faire tout pour atteindre nos objectifs économiques et sociaux, mais aussi en termes d'écologie. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que déjà dans un certain nombre de cas, ils peuvent faire les deux en même temps, en fait. Par exemple, en Inde, il y a un énorme problème juste d'approvisionnement d'eau. Donc chaque année, ils ferment 10 gigawatts de centrales à charbon pendant la période de sécheresse parce qu'ils n'ont pas assez d'eau pour l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a déjà des avantages pour ces pays à choisir d'autres technologies, indépendamment du climat. Okay. Deuxièmement, sur l'accès à l'énergie des gens les plus pauvres, encore une fois, l'AIE, c'est pas moi, l'AIE a sorti une étude récemment qui a expliqué que d'ici 2030, de 70% des nouvelles connexions qu'on pourrait faire pour les personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité aujourd'hui pourraient être faites à prix équivalent ou moins cher avec des énergies renouvelables et des mini-réseaux avec des batteries qu'avec le charbon.
Je voudrais qu'on avance tout de même. Lucie Pinson, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Oliver Sartor, mais aussi je voudrais qu'on revienne sur l'Allemagne et sur la capacité allemande à véritablement remplir ses objectifs de sortir du charbon d'ici à 2038.
Alors, sortir du charbon d'ici 2038 en Allemagne, c'est possible. Malheureusement, c'est beaucoup trop tard. C'est 8 ans trop tard par rapport aux objectifs qu'elles devraient se donner pour rester, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est encore possible de rectifier le tir, à condition que tout le monde s'y mette, et notamment les acteurs économiques, notamment RWE, qui est financé par nos banques, par BNP Paribas notamment. Et RWE se positionne contre une sortie et la sortie de 2038. Le PDG a réagi très fortement à la décision allemande en disant que c'était bien trop tôt et qu'il comptait de toute manière exploiter en effet ses mines de lignite et ses centrales de lignite jusqu'en 2045. Cependant, là, j'aimerais revenir sur la responsabilité en fait des acteurs politiques et des acteurs économiques dans le charbon, notamment au niveau international. On a parlé beaucoup de ce qui se passait en Chine, on a parlé de ce qui se passait en Inde, on a moins parlé de la responsabilité de la Chine ou encore du Japon ou encore des acteurs économiques européens dans le développement du charbon au niveau international. Et on se rend compte que la Chine aujourd'hui elle développe plus de 60 gigawatts de capacité charbon dans 17 pays. Le Japon, qui est également un très gros promoteur de charbon, non seulement chez lui, mais prévoit son plus de 60% de son développement charbonnier est hors de son territoire. Voilà. Et donc là, on se pose la responsabilité, notamment la responsabilité de la France qui a accueilli la COP21 et notamment la responsabilité du président de la République qui a été mandaté par les Nations Unies pour piloter les financements climatiques pour la transition énergétique. Or là, on a un gouvernement qui est totalement absent au niveau international. Oliver a parlé des pays qui ont pris des engagements, qu'ont signé l'engagement, le Pascal Alliance, donc ont pris des engagements à tout faire pour sortir du charbon d'ici 2030. Aujourd'hui, la France est totalement absente de ce débat-là, alors qu'ils ont un rôle à jouer. Également, la France ne cherche pas à influencer ses pairs au niveau international pour les pousser à arrêter de financer le développement avec des fonds publics, le développement du charbon. Et enfin, la France a quand même des entreprises, notamment Engie, aujourd'hui développe une nouvelle centrale à charbon au Maroc. Donc que fait le gouvernement français?
Et au Chili, alors même qu'elle s'était engagée dès 2015 à cesser de développer, d'ouvrir de nouvelles centrales à charbon. Philippe Chalmin.
Écoutez, on va prendre le cas du Maroc. Il se trouve que je le connais un petit peu et j'ai eu exactement cet étonnement de la part, en disant aux Marocains, mais c'est totalement absurde que vous construisiez une centrale au charbon. Je pensais moins aux renouvelables, même si le Maroc est en train de se doter de capacités solaires énormes, mais je pensais au minimum à des centrales à gaz. La réponse qui m'a été dite, c'est une décision qui a été prise il y a déjà quelques années, à cette époque, se posait un véritable problème qui était celui de l'approvisionnement en gaz naturel. Il se trouve qu'il y a un monceau de gaz naturel à côté du Maroc, ça se trouve en Algérie. Le problème, c'est que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont telles que les Marocains rachètent du gaz aux Espagnols, que les Espagnols ont acheté aux Algériens. Donc, le Maghreb du gaz, c'est pas pour demain. Et donc, quelque part, dans un souci, justement, d'avoir ce type de centrale permettant de faire le bouclage lorsque vous avez des intermittents sur les renouvelables, le choix rationnel qu'ils ont fait a été celui d'une centrale au charbon. Mmh. C'est ça le drame. Et donc, il faut bien se dire, on est tous d'accord, et je m'excuse de faire un peu presque le rôle du méchant, je ne défends pas le charbon, je dis que il faut battre le charbon sur le terrain économique, et que la meilleure solution, ce serait, alors là, d'aller plus loin que la COP21, que la COP24 qui a été un ratage ignoble à Katowice, c'est d'arriver à mettre un prix mondial sur la tonne de CO2. C'est la seule manière de ne plus rendre rentable le charbon.
Olivier Sartor, sur cette idée de donner un prix à la tonne de CO2 et plus largement sur cette question de la rationalité ou non de continuer ponctuellement avec le charbon. Je cite au passage l'engagement de la France à fermer ses 4 dernières centrales électriques à charbon en métropole d'ici à 2022.
Oui, peut-être déjà sur la question du prix mondial du CO2, je pense que c'est une très mauvaise idée et ça ne verra jamais le jour parce que déjà, où est-ce qu'on fixe le prix? Est-ce qu'on fixe le prix à un niveau qui est abordable pour les consommateurs en Inde ou à un niveau qui est abordable pour les consommateurs en France? C'est une absurdité. Deuxièmement, il y a un gros sujet dont on n'a pas encore parlé qui est qu'est-ce qu'on fait avec les salariés et les citoyens qui sont affectés par cette transition, par la sortie.
Il y a un enjeu de reconversion très important.
Il y a un enjeu de ce qu'on appelle transition juste, ce qui est très très important pour ces acteurs-là. Et en fait, si on laisse juste le marché faire et on fait juste une taxe ou on a un système de quotas ou tout ce qu'on veut, le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité pour ces acteurs et on évite aussi de parler de ce sujet qui est essentiel. Parce que sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on a vu en France avec le prix du pétrole. On peut mettre une taxe et après, en fait, on a une contestation qui vient d'un problème social et après, on dit « Ok, bon, on va geler les taxes, on va plus l'augmenter. » D'accord ? Donc, en fait, il faut prendre le problème complètement à l'inverse, en fait. Je sais que c'est un peu... pas populaire avec les économistes de parler du fait qu'il faut planifier quelque chose dans l'économie. Mais ici, on a un problème, effectivement, un problème radical, un problème difficile. D'ailleurs, j'ai un PhD en économie, donc je suis pas contre les prix ou les marchés. Mais je veux juste dire que ici, on a un problème qui a plusieurs dimensions qui sont compliquées et on a un temps très limité. Il faut, moi, je pense que, regarde ce qu'ils font en Allemagne. L'Allemagne a mis tout le monde ensemble pour, tu vois, les syndicalistes, les élus locaux des régions, les investisseurs dans les actifs, les experts, etc., les ONG, pour arriver à un consensus sur qu'est-ce qu'on peut faire qui respecte en fait les besoins de chacun de ces acteurs, mais qui nous permet aussi de sortir de ce problème. Et ils sont arrivés en fait à un calendrier pour sortir du charbon et avec des solutions que tout le monde a l'air d'accepter.
Mais à l'inverse, aux États-Unis, c'est bien le marché qui va peut-être entraîner une sortie du charbon, puisqu'on sait que Donald Trump avait envie de relancer cette industrie en déclin. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le charbon est en déclin aux États-Unis, Olivier Sartor.
Oui, effectivement, c'est là où il faut la nuance, en fait, parce que effectivement, le marché nous aide aussi. Parce que effectivement, aux États-Unis, en fait, il y a 250 centrales à charbon qui ont fermé depuis 2010. C'était 40% de leur capacité à l'époque. Et ils sont remplacés, effectivement, par... Mais encore une fois, les énergies renouvelables qui sont moins chères dans les États qui ont beaucoup de soleil et aussi le gaz qui vient du gaz de schiste qui est aussi plus économique. Cela étant dit, aux États-Unis, il y a quand même, ce qu'on voit, c'est que si Trump est élu, c'était aussi en partie à cause du fait que les impacts de cette tendance du marché sous le secteur du charbon et sous ses employés et ses régions n'étaient pas acceptable.
Olivier, excusez-moi, il y a 50 000 mineurs de charbon aux États-Unis, c'est pas eux qui ont fait l'élection, et le retrait des États-Unis du charbon, il est lié au fait que vous avez eu un développement extraordinaire du gaz de schiste. Il y a 10 ans, on parlait pas de gaz de schiste, et on pensait que les États-Unis avaient atteint le pic gaz, qu'ils allaient de plus en plus devenir dépendants. Aujourd'hui, ils sont devenus exportateurs, et effectivement, le prix du gaz naturel aux États-Unis, c'est le seul endroit ou dans le monde où le gaz naturel arrive à un niveau où il concurrence le charbon et il arrive à sortir le charbon. Donc là, effectivement, on a un mécanisme économique. Là où je vous suis moins quand même, c'est sur le prix du carbone. Regardez simplement l'année dernière, le prix du CO2 en Europe est passé de 5 à 25 euros. Eh bien, passer à 25 euros, ça handicape quand même le charbon. Et je pense que ça a poussé nos chers amis allemands, peut-être, à être un peu plus vertueux. Et puis là où je ne peux pas vous suivre sur le cas allemand, c'est que l'Allemagne a abandonné le nucléaire. Or, en termes de CO2, la production d'électricité nucléaire, c'est incontestablement la seule qui soit parfaitement propre.
Lucie Vincent.
Alors, je voudrais revenir tout d'abord, je suis désolée, le débat est sur le charbon, mais un petit passage aux États-Unis sur le gaz de schiste. Le gaz de schiste, aujourd'hui, si on regarde aux États-Unis, a entraîné un repart à la hausse des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, en raison de l'exploitation massive des gaz de schiste. Et alors si, je vois les chiffres sont là. Donc il y a eu un repart à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on voit bien que le GNL au niveau international n'est pas une solution, puisque c'est notamment du gaz de schiste aux États-Unis qui serait exporté. Avec notamment en France, il y a un arrivage lundi d'un cargo de Total de gaz naturel liquéfié par les États-Unis, financé grâce à la Société Générale, et c'est du gaz de schiste donc qui arrive en Europe.
Arrêtez de tomber dans un manichéisme primaire, excusez-moi. Le GNL, c'est quand je préfère que la France importe du GNL qu'elle importe du charbon.
Alors, on va laisser finir Lucie Masson.
Alors c'est bon, c'est complètement reporter, enfin se fermer les yeux sur une interdiction en France du gaz de schiste et partir du principe que les émissions sont mieux là-bas avec et également les impacts sur l'eau que en France.
Je serais heureux que l'on produise du gaz de schiste en France.
Pour revenir, alors ça c'est encore autre chose.
Ça serait l'objet d'un autre débat.
Voilà, pour revenir du coup sur le charbon, le marché nous aide, le prix carbone peut nous aider dans certains cas, mais encore une fois, voilà, ça va dépendre des pays. Cependant, si on regarde certains pays, notamment la Pologne, qui est quand même le point noir de l'Union européenne en matière de charbon après l'Allemagne, le charbon là-bas n'est pas rentable. C'est aujourd'hui exploité grâce à des lourdes subventions publiques. Et donc, la question du marché, les mécanismes de marché peuvent nous aider. Cependant, au bout d'un moment, il faut se poser la question de la volonté politique. Et bien entendu, là, il y a un enjeu au niveau de l'Union européenne à faire en sorte que les pays se donnent les moyens de développer assez leurs capacités dans des secteurs autres pour pouvoir assurer une sortie du charbon d'ici 2030. Et là, la France n'est pas forcément exemplaire, puisqu'elle n'a pas toujours pas écrit dans sa loi la fermeture des centrales à charbon, des 4 centrales à charbon, d'ici 2022.
Des centrales qui fournissent aujourd'hui moins de 2% de l'électricité consommée en France, mais le charbon est quand même beaucoup utilisé pour passer les périodes de consommation de pointe en France. Donc c'est là où on se demande si ce sera facile de s'en affranchir.
Et on sait, le problème, c'est que cette décision, elle a été décidée en juillet 2017 et qu'aujourd'hui, on commence à peine à se poser la question du futur des salariés et des sous-traitants qui travaillent dans ces 4 infrastructures.
Un mot sur la Pologne, Oliver Sartor, où 80% de l'électricité provient de centrales à charbon et qui est l'un des rares pays qui ne prévoit toujours pas de scénario de sortie.
Oui, c'est vrai que la Pologne, c'est un pays très important qui consomme toujours beaucoup de charbon. Par contre, c'est pas exact de dire qu'ils prévoient pas encore un scénario de sortie. Ils sont pas encore, le débat n'est pas encore aussi mûr en Pologne qu'est le cas en Allemagne ou en France même. Par contre, il y a un nouvel scénario ou un plan énergétique en fait du gouvernement polonais qui vient de sortir, qui en fait montre que ils voient la consommation du charbon rester plus ou moins stable d'ici 2030, et puis ensuite descendre de façon très importante après. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que justement, parce que le gouvernement voit plusieurs choses. Il voit d'un côté les politiques européennes qui commencent à se durcir de plus en plus sur le charbon.
Donc, et qui font que le charbon lui coûte de plus en plus cher.
Voilà, qui fait que ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins difficile à justifier légalement, mais aussi économiquement, parce qu'il y a aussi un prix du CO2 européen qu'il faut pas oublier. Mais l'autre raison, c'est parce que, comme Lucie avait dit, ils ont en fait beaucoup de mines, surtout le lignite, où ils sont en train d'épuiser leurs ressources en fait. Et ça veut dire que d'ici les années 2030, ils auront besoin de recreuser des mines encore. Par contre, pour faire ça, il y a des populations qui vont devoir bouger. Et il y a une vraie question, c'est d'ici 2035, est-ce qu'on veut vraiment recreuser des grosses mines à lignite dans ce contexte-là? Et donc c'est pour ça que je pense que même si ils sont attentifs dans leur propos de ne pas parler de sortie de charbon, ils savent très bien qu'il faut sortir.
Pour des questions de politique intérieure, principalement. Philippe Chalmin.
Ils ont un problème, c'est que pour eux, le charbon, c'est leur énergie nationale. Et que, malheureusement, s'ils quittent le charbon, on retrouve mon problème du gaz naturel. Et eux, malheureusement, ils n'ont pas trouvé le gaz de schiste. Et donc, le gaz, ils l'importent. et il importe du grand voisin russe avec toutes les dépendances que vous pouvez imaginer. Donc, quelque part, c'était sous Vichy, on produisait le carburant national qui était un gaz à partir de charbon. Bah, chez les Polonais, le charbon, c'est un petit peu l'indépendance nationale vis-à-vis du fournisseur éventuel russe, vis-à-vis des voisins allemands qui eux-mêmes se construisent un gazoduc qui passe par la Baltique pour éviter justement de traverser la Pologne. Oui. Donc là, on a une dimension géopolitique non négligeable qui peut-être expliquer la position polonaise
Olivier Sartor, d'un mot.
Ça c'est vrai, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que la Pologne est en train de diversifier sa mix énergétique. La Pologne a changé pas mal en fait son discours récemment et ses politiques pour promouvoir beaucoup, surtout l'éolien en mer, mais aussi du solaire. Par contre, une autre chose qui est très intéressante par rapport à cette dépendance aux Russes, vous avez raison que dans la psychologie polonaise, le charbon est l'énergie domestique qui est la source d'indépendance. Par contre, quand ça coûte excessivement cher à l'économie, à un moment donné, il faut que ça soit mis en question, et c'est le cas actuel. Et l'autre chose, d'ailleurs, c'est que c'est tellement peu économique parfois que de plus en plus, le Pologne commence à importer du charbon d'autres pays, malgré l'approvisionnement qu'ils ont domestiquement. Et de qui est-ce qu'ils les importent ? La Russie.
Oui, mais de toute façon, l'Europe est importatrice de charbon. Nous importons du charbon sud-africain, etc.
Et américain.
Mais il faut se rappeler aussi que ça n'est pas il y a quand même si longtemps, à la fin des années 40, le redressement de la France passait par les statistiques de production du charbon. Et le Premier ministre, enfin le président du Conseil à l'époque, venait devant l'Assemblée, regardez la France, nous avons produit plus de 50 millions de tonnes de charbon. Donc il y a eu toute une épopée du charbon, nous en sommes totalement sortis. Et c'est vrai que la question du charbon en France, elle est devenue totalement secondaire, grâce au nucléaire.
Vous parliez tout à l'heure de volonté politique, Lucie Pinson. En Europe, toujours, il y a un rapport de 5 ONG sorti le mois dernier qui a mis en avant que les 16 centrales présentes en Bosnie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, au Monténégro et en Serbie polluaient autant en dioxyde de soufre que les 250 centrales présentes dans le reste de l'Europe. Est-ce que justement, c'est pas un aspect à mettre en avant lors des négociations d'adhésion entre l'Union européenne et les pays des Balkans?
Alors oui, certainement, et c'est intéressant que vous dites ça, parce que généralement quand on parle charbon, on pense climat, et on pense beaucoup moins en effet tous les bénéfices qui peuvent être apportés à sortir du charbon en matière sanitaire. Aujourd'hui, il y a plus de 18 000 personnes qui meurent prématurément en raison de la pollution due par les centrales à charbon en Europe, et donc c'est en effet un point central. Sur mettre ça au niveau des conditions d'adhésion de l'Union européenne, pourquoi pas. Après, il faut bien rappeler que de toute manière, les centrales au niveau également de l'Union européenne aujourd'hui ne sont pas en normes qui vont être mises en place en matière de respect de la pollution, et que on est à un tournant au niveau de l'Union européenne, puisque les opérateurs de centrales vont avoir un choix entre faire des nouveaux investissements pour mettre leurs centrales aux normes et au niveau des normes de pollution pour des raisons sanitaires, ou au contraire, orienter ces infrastructures vers leur sortie et du coup opérer plus des nouveaux investissements dans d'autres secteurs.
Ça pose tout de même la question des moyens de pression qui existent. En Australie, les quatre principales banques du pays ont refusé de financer une nouvelle mine géante près de la grande barrière de corail. Agir sur le financement, c'est l'un des outils les plus efficaces aujourd'hui pour lutter contre la production, la perpétuation de la production de charbon.
Alors il est certain qu'aucune nouvelle infrastructure charbonnière ne peut être construite sans financement, sans investissement et sans assurance. Donc là, on a notamment fanfaronné en France pendant de nombreuses années, depuis la COP21, en disant que nos banques auraient arrêté de financer le secteur du charbon, ce qui est totalement inexact, puisque nos banques ont certes arrêté de financer de nouveaux projets de centrales à charbon, mais continuent de financer les entreprises qui développent ces projets-là, avec plus de 10 milliards de financements accordés après la COP21 à ces entreprises. On a également également un assureur français, un réassureur, qui aujourd'hui réassure des nouvelles centrales à charbon. Donc agir au niveau de ces acteurs économiques serait en effet un effet, aurait un effet important sur
l'économie. Mais il y a une loi qui est passée sur la transparence des banques dans le financement de projets d'énergie fossile. Elle a été adoptée hier à l'Assemblée. C'est une avancée pour vous, Lucie Pinson ?
Alors pour l'instant, elle a été totalement vidée de sa substance. On aurait souhaité que les articles soient adoptés en l'état. Et on est très loin, même avec ce texte et avec les discussions qui sont aujourd'hui en cours, on est très très loin de la déclaration du ministre de l'économie qui a été faite au Climate Finance Day l'année dernière, selon laquelle si les acteurs financiers français n'arrêtaient pas leur soutien au secteur du charbon, ils seraient prêts à les contraindre. On a un point positif qui est que les investisseurs, sous l'impulsion de la FFA, de la Fédération Française des Assurances, ont commencé à exclure les entreprises qui développent de nouveaux projets charbon de leurs investissements. Malheureusement, certains acteurs restent à la traîne, et notamment les banques assureurs.
J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, c'est la fin de cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois, Oliver Sartor, Philippe Chalmin et Lucie Pinson, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque semaine, on vous propose un ouvrage qui a marqué la discipline économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, c'est le traité sur la famille du très libéral Gary Becker que nous allons vous faire découvrir. Bonjour Julien Damon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po Paris et fondateur de la société de conseil Éclair. Alors d'abord, comment présenter Gary Becker en quelques mots, Julien Damon, comme un économiste qui voyait l'économie partout ?
C'est un économiste qui en effet voyait l'économie partout, mais qui était professeur de sociologie à l'université de Chicago. C'est véritablement un économiste puisqu'il est titulaire du prix Nobel d'économie. Si on doit dire quelque chose d'important, c'est qu'il appartient à cette galaxie d'ailleurs d'économistes et de prix Nobel d'économie passés par l'université de Chicago. En un mot, c'est un économiste très libéral. Alors le terme fait qu'on est voué aux géomonies ou célébré en la matière, mais il compte parmi les méchants, si on n'aime pas, les prix Nobel d'économie libéraux. Maintenant, si on aime l'économie, on ne peut pas ne pas avoir à un moment une rencontre avec le travail de Gary Becker sur plein de sujets, le capital humain, la lutte contre les discriminations, la légalisation du cannabis, il a fait plein de choses, et sur la question qui va nous occuper, la question de l'économie de la famille.
C'est un libéral, dites-vous, Julien Damon, et c'est en effet une rencontre avec un autre libéral, Milton Friedman, qui a été son professeur, voilà. Qui constitue pour lui une expérience assez déterminante.
Oui, ça a été son directeur de thèse, et Milton Friedman, lui aussi prix Nobel d'économie, lui aussi professeur à Chicago, est l'un des pères fondateurs de cette tradition d'économie à Chicago, investi dans le traitement par les économistes des questions sociales, des questions contemporaines, des questions monétaires. C'est pour cela qu'on a parlé avec Gary Becker, d'ailleurs, de l'impérialisme économiste, l'impérialisme de l'économie comme science, qui se mêlait de tout, après la psychologie, après la démographie, après la sociologie. Mais, pour le dire de façon peut-être un rien souriante, Gary Becker est certainement un des plus curieux, non pas étrange, mais personnage qui cherchait à s'inspirer de toutes les sciences sociales, pour tenter de décrypter les sujets contemporains. Donc c'est un gentil parmi ceux qui sont généralement présentés comme les méchants. Voilà, je le présente de façon un peu grotesque, mais si on doit caricaturer, c'est ça.
Je précise, Julien Damon, qu'il est né en 1930 et qu'il nous a quittés il y a quelques années, en 2014. Ans, ouais. Et au début des années 90, il préside la Société du Mont Pèlerin, ouais. Qui est un club de pensée économique ultra-libérale, auquel appartient Margaret Thatcher.
Alors, je ne sais pas si Margaret Thatcher y appartenait, mais la Société du Mont Pèlerin, en effet, en Suisse, avait été créée à l'initiative de Frédéric Von Hayek, un autre prix Nobel d'économie, lui aussi passé par Chicago, mais vous trouviez des gens très bien dans cette Société du Mont-Pèlerin, dont Raymond Aron, dont on reparle beaucoup aujourd'hui. Margaret Thatcher a été très influencée par ses auteurs. Elle a certainement participé à des travaux de cette société savante, et Gary Becker, comme nombre d'économistes de haut rang et très libéraux, est passé par ce club, on va dire ça.
Alors le point de départ de Gary Becker dans son traité sur la famille, qui paraît en 1980, 1, c'est que la famille est une entreprise comme les autres. Qu'est-ce que ça implique, Julien Damon ?
Ça implique de ne pas voir le foyer comme une unité, mais de voir tous les gens qui composent le foyer comme des unités, chacun comme des homo economicus. Car Gary Becker et ses compères ont mis en avant et incarnent tout de même cette vision de la rationalité peut-être étriquée du seul intérêt mis en avant pour expliquer les comportements humains. Donc l'idée, c'est plutôt que de voir la famille comme une unité traditionnelle, centre de la société, on va décortiquer au sein de la famille ce que sont les intérêts des uns et des autres pour être en couple, pour se mettre en couple, pour rester en couple, pour se séparer, pour faire des enfants et décider du nombre d'enfants qu'il faudra élever plutôt que d'acheter des voitures ou des voyages. Je fais presque de la citation là de Monsieur Becker, et de voir ce que sera l'investissement éducatif en direction de ces enfants.
Gary Becker qui cherche à expliquer pourquoi la hausse généralisée des revenus dans un pays donné entraîne une baisse de la fécondité. Et à cela, il répond, eh bien c'est parce que les parents veulent moins d'enfants car ils vont investir dans le capital humain de leurs enfants. Vous avez cité ce terme de capital humain que véritablement Gary Becker a théorisé.
Alors, il n'a pas inventé le mot, mais il est celui auquel on accole le plus souvent la notion
on
de
le doit
capital
Arthur
humain.
Entre,
je ne sais pas si c'est à Pigou, je crois qu'on met un autre auteur qui s'appelle Schultz, mais bon, ça c'est de la bagarre d'experts. En tout état de cause, on associe au nom de Gary Becker, la notion de capital humain. Qu'est-ce que c'est que le capital humain ? C'est comme le capital physique ou le capital financier d'un individu. Ce capital humain est constitué de trois choses. C'est l'ensemble de ses savoirs, de ses expériences et de ses compétences. Et en décortiquant tout cela, on permet de regarder ce que sont les contraintes, les décisions, les coûts et avantages de toute décision pour toute personne, notamment dans le contexte du foyer familial, pour investir dans telle ou telle option qui fera augmenter notre capital humain personnel, notre bien-être par ailleurs, ou notre mal-être si on se trompe, et investir dans des enfants. La question que vous me posiez, c'est plus on est riche, moins on fait d'enfants. C'est tout à fait exact. Plus on est riche, moins on divorce par ailleurs, parce que c'est un coût plus important. On fait moins d'enfants parce que c'est plus coûteux d'avoir des enfants, mais on investit davantage en eux pour qu'ils réussissent, parce qu'il y a toujours une forme d'altruisme en la matière, et surtout, dans la compétition généralisée qu'est le marché, dans toutes ses composantes, marché conjugal, marché économique, on met tout ça au pluriel, pour que les enfants réussissent, il leur faut un niveau éducatif élevé. Et ceci a été transcrit aujourd'hui par la Commission européenne ou tout ce que vous voudrez, dans ce que l'on baptise un peu de manière pompeuse la société de la connaissance.
Et c'est en cela que Becker estime que Malthus se trompe lorsqu'il dit que l'augmentation rapide de la population est un obstacle au progrès.
Alors, c'est vrai que pour Malthus, le développement de la population est un frein au développement économique. C'est ce que va chercher à contredire notre camarade Becker en expliquant que une population qui augmente en quantité, mais, et surtout, je cite Becker, en qualité, a un impact très positif sur le développement économique. Aujourd'hui, en termes plus modernes qu'en 1980, quand il publie ce traité ou ses travaux qui datent des années 60, on dirait que l'investissement dans le capital humain et le développement démographique donnent des possibilités d'innovation.
Finalement, l'éducation est un investissement dans le capital humain, tout comme l'achat d'une machine est un investissement dans le capital physique d'une entreprise.
Ah mais c'est exactement ça, ou l'achat d'actions pour le capital financier. Et la métaphore est parfaite. D'ailleurs, elle est parfaite. On peut la contester. Il y a plein de gens qui contestent Becker. J'ai l'impression de faire du beckerisme. Je fais le néologisme. Mais c'est exactement des métaphores qui sont les siennes, oui.
Et c'est pour cela, cela permet d'expliquer pourquoi les jeunes générations passent de plus en plus de temps à s'instruire, avec cette idée que l'éducation est plus rentable avec l'allongement de la durée de vie.
Oui. L'idée force, c'est que on peut investir dans du capital financier, on peut investir dans du capital physique, on peut investir dans du capital humain. Mais dans des économies qui se dématérialisent toujours davantage, qui passent de plus en plus dans l'économie de service, l'investissement dans le capital humain est l'investissement qui prime. C'est un peu cela que mettent en avant les partisans de cette notion, et Gary Becker en premier lieu.
Dans quel contexte le livre de Gary Becker est-il publié, Julien Damon ? C'est un moment où les enfants ne représentent plus une garantie pour l'avenir ?
Ah, alors, c'est des sujets
d'évolution. En termes de retraite, notamment.
Oui. Ah, il y a ce sujet des retraites qui est assez fondamental. C'est-à-dire que on faisait beaucoup d'enfants et on continue à en faire dans certains pays du monde. toujours en développement, qu'on est en faire beaucoup, parce que c'est une sorte d'assurance pour les vieux jours. Alors, ça paraît presque de l'évidence aujourd'hui que de raconter tout cela, mais c'est à la suite de travaux de Baker dans les années 60, 70, et compilé dans son traité de 1981, que l'on a mis en avant cette chose assez fondamentale, qui est que, à mesure de l'enrichissement des populations, on va faire moins d'enfants, et les enfants, de surcroît, puisqu'il y a des systèmes collectifs de retraite, vont eux-mêmes, par la suite, moins investir de temps et d'argent, mais surtout de temps, dans l'existence de leurs parents et grands-parents. Donc ce sont des transformations anthropologiques que l'économiste explique, et qu'il explique plutôt bien. Enfin, il décrit des choses qui sont vraies.
Il y a une autre explication qui est apportée par Baker à la baisse de la fécondité, le soin des enfants qui représente un manque à gagner pour les femmes, un manque à gagner qui augmente en même temps que les salaires féminins.
Oui, alors parmi les changements les plus importants de la famille, il y a les changements juridiques de ce qu'est l'union, de ce qu'est le mariage. Et il y a surtout une autre transformation absolument majeure dans la seconde partie du XXe siècle, c'est l'activité féminine rémunérée sur le marché du travail. Parce que je ne veux pas me faire taper sur les doigts par des copines féministes, les femmes ont toujours travaillé, dans l'univers domestique. C'est un peu
c'est
la
ce
vision...
qu'on a montré cette semaine dans notre série,
ah oui,
justement, sur les femmes.
Toute cette semaine, voilà. Et alors donc, M. Baker vient se glisser à la fin de la série sur les femmes pour évoquer tout cela. Le sujet des inégalités conjugales s'expliquait... et demeurait à des niveaux élevés parce que dans les choix de conjoint, vous aviez l'homme qui incarnait le monsieur gagne-pain et madame fait du logis, madame à la maison élevait un nombre relativement élevé d'enfants. Tout ceci s'est totalement transformé, a été particulièrement bousculé aux États-Unis, en France, dans l'Union européenne, avec l'activité féminine, la biactivité, les possibilités pour les femmes de se libérer, si je dis le joug, ça plaira, mais ce serait un peu forcé, en tout cas, de l'emprise du patriarcat, et lorsque les égalités sont à peu près atteintes en matière de revenus, il est plus facile de se séparer. Homo economicus devient genré, c'est-à-dire qu'il peut se séparer.
Dans la vision de Gary Baker, les enfants ne sont plus un investissement, mais un bien de consommation, en réalité.
Alors, il y a les deux. Parce que, d'ailleurs, il faut toujours voir ce qu'il y a une distinction entre ce qu'est un bien que l'on va comprendre entre une consommation et un investissement. Il y a le fait, et Baker le dit, que les couples ont à choisir entre acheter une voiture et faire des enfants.
Ou un bien de consommation immédiat ou différé, plus exactement.
Ouais, voilà. Et en l'espèce, il y a ces deux dimensions dans l'enfant. Lorsque vous le concevez, et au-delà de M. Baker, avec de l'amour, l'exaltation de la réalisation d'un petit enfant, c'est du bonheur. Et donc, ça appartient à la fonction d'utilité. C'est comme ça que raisonnent les économistes, c'est-à-dire au bien-être des parents. Mais c'est également un investissement que, plus longtemps que cela n'a jamais été le cas, l'éduquer. La fonction première de la famille, c'est l'éducation, et par la suite, de passer par l'école, l'université de plus en plus, pour continuer à développer son capital humain, ce petit enfant. Donc c'est à la fois de la consommation et de l'investissement.
On a détaillé les théories de Gary Baker, Julien Damon, mais est-ce que son modèle, qui semble réduire les individus à des machines calculatrices, ne fait pas abstraction de paramètres déterminants, à commencer par les émotions?
Il a beaucoup été critiqué, et il l'est de plus en plus, à la fois M. Baker et l'ensemble de ce qu'il a pu produire en termes de modèles, pour deux raisons. La première, c'est que, en effet, les psychologues ou les poètes vont pouvoir dire « mais vous ne pouvez pas introduire, par exemple, les sentiments et l'amour dans vos modèles », ce à quoi il aurait rétorqué de manière très simple, mais pas du tout. Si vous aimez quelqu'un, c'est dans la fonction de bien-être. Donc il balayait cette critique. La critique qui peut être faite aujourd'hui, c'est qu'avec toute cette nouvelle vision de l'économie qui est l'économie comportementale, tous les économistes, même titulaires du prix Nobel désormais, comme M. Taylor l'an dernier, eh bien, lui estime en effet que M. Baker a ouvert la voie, mais que sa conception de la rationalité est très insuffisante, ou est très limitée, comme aurait dit un autre prix Nobel d'économie, Herbert Simon. Ouais.
Pour conclure, Julien Damon, pourquoi le traité sur la famille de Gary Baker est un livre important, selon vous ?
C'est important parce que ça a beaucoup inspiré, et au-delà même d'inspirer, ça a été la création d'une tradition pour les économistes de s'intéresser à la famille, non plus seulement comme unité, comme on l'évoquait au départ de notre conversation, mais comme simplement un endroit où des homo economicus cherchent à coopérer plus ou moins habilement. Donc c'est important parce que ça a créé une quasi-discipline au sein de l'économie elle-même.
Merci beaucoup, Julien Damon, de nous avoir éclairé sur l'œuvre de Gary Becker. Le traité sur la famille de Becker est paru en anglais aux presses universitaires de Harvard, n'a pas été traduit en français. Et je renvoie les auditeurs à votre Que sais-je consacré aux politiques familiales et qui vient d'être réédité. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée à l'Europe, mis à l'honneur par le salon Livre Paris pour sa 39e édition qui débute en fin de semaine prochaine. Nous serons d'ailleurs présents au salon Livre Paris en direct et en public vendredi prochain à 14h. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.